Le journal Yves Decamp.
Bonjour. Il sera bien candidat pour son cinquième mandat, mais pour un an seulement. Le président algérien Bouteflika tente un geste d'apaisement face aux manifestations qui se poursuivent. Pas sûr que cela suffise, mais c'est lui qui décide, assure l'ambassadeur d'Algérie en France.
C'est lui qui décide. Ce n'est pas le système qui le désigne. Il a décidé d'être candidat. Bien entendu, il n'a pas sa santé de 20 ans, mais je pense que ce sera certainement son dernier combat pour permettre cette transition générationnelle au niveau de l'Algérie.
Au-delà de la personne du président, les jeunes Algériens frappés par le chômage demandent une autre politique économique. Le départ de Ford, un séisme territorial pour le maire de Blanquefort en Gironde qui espère un plan de sauvegarde de l'emploi à la hauteur. Le ministre Bruno Le Maire a demandé au moins 20 millions aux constructeurs américains dont les propositions seront validées ou pas dans la journée. Benoît Hamon, sur le site ce matin, demande une nationalisation temporaire. Au-delà du cas Ford, c'est toute l'industrie automobile engagée dans sa reconversion vers l'électrique qui s'inquiète pour l'avenir. À 3 jours du salon de Genève, le PDG de PSA, Carlos Tavares, dénonce un diktat de l'Europe qui, selon lui, veut aller trop vite vers la réduction des émissions de CO2 en mettant en péril 13 millions de salariés, ce dont nous parlerons avec notre invité Jean-Jacques Chanaron, économiste spécialiste de l'automobile. Pour se rabibocher avec les Italiens, le président Macron sur la Rai Uno hier soir qualifie de péripétie les tensions de ces derniers jours entre Rome et Paris, une invitation à son homologue Mattarella, mais sans jamais prononcer les noms de Di Maio et Salvini. Quand les femmes parlent 2 fois moins que les hommes dans les médias, 100 ans, c'est une enquête inédite de l'INA qui a épluché les programmes sur 10 ans. Stéphane Capon, le résultat est éloquent, si j'ose dire.
Oui, 700 000 heures de programmes analysés par les ordinateurs de l'INA et les prises de parole des femmes représentent moins d'un tiers du temps de parole total à la télé et à la radio.
Dans ce journal également, l'entretien du lundi de Sandrine Houdin, portrait d'une bénévole des Restos du Cœur, toujours aussi passionnée depuis 15 ans, avant la collecte nationale de la fin de semaine. Une tornade qui fait des dégâts et des victimes dans l'Alabama, 23 morts au moins. Au dernier bilan, en France, l'alerte orange au vent violent reste de vigueur, mais sans bobo pour l'instant, Élodie Calac.
Oui, on attend encore des averses, des orages et du grésil cet après-midi. 33 départements en vigilance orange pour des vents tempétueux entre le centre, le bassin parisien, le nord-est. On attend jusqu'à 100 km à l'heure, parfois 110, 120. Je rappelle qu'on a eu jusqu'à 151 km à l'heure à Belle-Île. Ça se calme quand même progressivement par l'ouest et pour les températures, 10 à 20 degrés du nord au sud.
Le bulletin complet en fin de journal. En Algérie, c'est ce qui s'appelle couper la poire en deux pour le président Bouteflika au lendemain d'une nouvelle manifestation contre sa nouvelle candidature. Le président de 82 ans, au pouvoir depuis 20 ans, confirme qu'il se représentera, mais pour une année seulement. S'il est réélu en avril, il promet une élection présidentielle anticipée. Certains y verront un geste d'apaisement, d'autres une provocation. Thibaut Cavaillès, comment interpréter cette initiative?
Eh bien, peut-être que le pouvoir n'avait pas de plan B, tout simplement. Alors, il faut essayer pour essayer de comprendre, il faut revenir à 1999, l'accession de Abdelaziz Bouteflika à la présidence. Dès qu'il est arrivé, il a tout verrouillé. Je ne serai pas un président aux trois quarts, avait-il dit. Pas de partage du pouvoir avec l'armée. Jusqu'à de premiers ennuis de santé en 2005, ils l'ont obligé à céder un peu de terrain. Les commandes ont alors été partagées avec une sorte de coalition faite de son entourage proche, de l'armée, de grands hommes d'affaires du pays. Un pouvoir très, disons, secret. Aucun filleul, aucun héritier n'a été préparé, encore moins présenté. Même après l'AVC dont le président a été victime en 2013. Si aujourd'hui le pouvoir s'entête, c'est déjà peut-être parce que la contestation l'a pris par surprise, mais aussi parce que les choses ont changé au sein du Sérail, selon Karima Diresh, historienne et directrice de recherche au CNRS.
On a ces dernières années une très forte complexification en fait de ce qu'on appelle comme ça très facilement le pouvoir algérien. La fameuse équation FLN armée n'a plus tout à fait la même pertinence aujourd'hui. Elle s'est complexifiée avec une nouvelle génération d'officiers, avec d'autres acteurs politiques qui sont ces grands oligarques, ces grands hommes d'affaires. Donc c'est plus tout à fait pareil.
Voilà, l'harmonie au sein du Sérail ne serait donc peut-être plus la même. Alors, présenter le frère, Saïd, pas ou plus question, tant les manifestants ont dit ne pas vouloir de lui non plus. Un ancien du Sérail a bien déposé sa candidature mais sans aucune vraie chance. C'est trop tard de toute façon, les Algériens qui protestent veulent un vrai changement. Le pouvoir algérien s'est tellement verrouillé qu'aujourd'hui il ne trouve plus la clé.
Voilà, et peu de chance que cette proposition en tout cas calme les ardeurs de la foule, notamment des jeunes qui ont d'autres revendications. Ce n'est pas seulement la personne du président qu'ils rejettent, c'est l'ensemble d'une politique économique qui laisse une grande partie d'entre eux sur le côté. Angers, les Labéréto. Pour une grande partie des jeunes Algériens, la seule perspective aujourd'hui, c'est le chômage.
J'ai 30 ans, 10 ans de terrorisme et 20 ans de Bouteflika. Dans la manifestation de vendredi à Alger, un jeune homme brandissait cette pancarte qui résumait le besoin de renouveau des jeunes manifestants. Abdelaziz Bouteflika est au pouvoir depuis 1999 et son premier ministre actuel a été chef de gouvernement pour la première fois en 1995. Dans les cortèges, ceux qui défilent réclament un renouvellement de la classe politique, mais pas seulement. Ils critiquent ceux qui ont volé l'argent du pays alors que le taux de chômage reste important et ils demandent qu'on les considère. Un jeune homme me disait vendredi « Regardez, on est des centaines de milliers ensemble dans la rue et il n'y a pas de problème, mais quand on se rassemble avec des amis dans un parc, ils nous envoient la police parce qu'ils disent qu'on est des voyous ». La lettre de la présidence a promis hier d'intégrer les jeunes dans le développement économique et social, mais pas sûr que cela soit suffisant. À Alger, Leïla Berato, RFI pour France Inter.
Un séisme territorial, les mots sont forts, mais pour le maire de Blanquefort en Gironde, ils sont le reflet d'une cruelle réalité. La fermeture programmée de l'usine Ford, ça concerne sur sa commune 50 familles, 850 familles sur l'ensemble du département. Le président de la République a promis de faire payer le constructeur américain pour la reconversion du site. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire dit avoir demandé 20 millions en exigeant un plan social généreux et solide. C'est ce soir justement que la direction régionale de la concurrence, du travail et de l'emploi doit valider ou pas le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par Ford et qui devra prendre en compte aussi la dépollution du site. Bref, rien de nouveau sous le soleil pour Philippe Poutou, le délégué CGT de l'entreprise, pour qui tout cela est connu depuis longtemps et qui demande à l'État de bloquer ce PSE pour pouvoir négocier davantage. Pour Benoît Hamon, le leader de Génération.S, l'État ne doit pas s'interdire d'utiliser l'instrument de la nationalisation temporaire. Il était ce matin sur le site.
Nationalisation temporaire, ça veut dire que l'État rentrera au capital et assurerait la pérennité de ce site comme ça, l'Italie l'a fait, comme les États-Unis l'ont fait, comme l'Allemagne l'a fait. Il n'y a que la France qui s'interdit de faire cela. Ce qui est quand même assez incroyable que aujourd'hui, j'entends dire le maire qui dit l'État a vocation à faire des boîtes de vitesse. Bon, j'observe qu'avec la caisse de dépôt, elle est présente au capital de Danone, on fait bien des yaourts. Donc on peut bien faire des boîtes de vitesse, et d'une. Et d'autre part, il y a près de 120 millions d'euros de crédits publics qui ont été mis sur ce site. Donc ça veut bien dire que, d'une manière ou d'une autre, l'argent public contribuait à ce qu'on fasse des boîtes de vitesse. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce principe de la nationalisation temporaire vise à maintenir les capacités industrielles et à la tourner vers la transition écologique.
Benoît Hamon, au micro de Stéphanie Brossard. À propos de Ford et plus généralement de la situation dans l'automobile, c'est un inhabituel coup de gueule que pousse ce matin dans le Figaro le PDG de PSA, Carlos Tavares, qui dénonce un diktat de l'Europe sur l'environnement, plus précisément sur la décision du Parlement de Strasbourg de réduire de 40% les émissions de CO2 dès l'année prochaine. 13 millions de salariés de l'industrie automobile sont prise en otage par un débat de société, explique Carlos Tavares, dont l'entreprise, au fond du gouffre il y a 5 ans, vient d'enregistrer des résultats historiques. Bonjour Jean-Jacques Chanaron.
Bonjour.
Économiste, spécialiste de l'industrie automobile. Vous comprenez ces propos du PDG de PSA? En tout cas, est-ce que vous y adhérez?
Oh, je sais pas si j'y adhère, mais en tout cas, je le comprends. C'est-à-dire que je pense qu'une décision d'une réduction de 40% d'ici quelques mois, c'est un petit peu inconsidéré et en même temps un peu inconscient parce que c'est techniquement pas possible de le faire soit sur les véhicules existants, diesel ou essence. Donc c'est la brutalité avec laquelle je peux être d'accord.
Oui, les constructeurs sont d'accord sur l'objectif, sur la trajectoire du passage à l'électrique, mais plus doucement.
Voilà, et c'est-à-dire ce qu'ils veulent pas, c'est que ça change tout le temps aussi, hein. C'est que l'Europe elle les a habitués à des durcissements sans préavis en quelque sorte. Eux ce qu'ils veulent c'est négocier, avoir un peu de temps, etc. Mon avis, ils sont tous d'accord sur la fin ultime du processus, c'est-à-dire qu'il faudra des véhicules propres, quoi. Donc c'est clair.
Ce qu'on va voir à Genève hein, dans 3 jours au grand salon de l'automobile, l'avenir c'est l'électrique, mais pour l'instant le marché est embryonnaire.
Bon, d'une part le marché est embryonnaire, et d'autre part les modèles, notamment les nouveaux modèles qui seront présentés à Genève en fin de semaine, là, sont plutôt des véhicules haut de gamme. Hein, or, le marché européen, il vit aussi beaucoup avec des petits véhicules, avec des petites motorisations. Pour le moment, les prix des véhicules électriques ne sont pas compatibles avec ce type de créneau.
Alors, si on ne vend pas assez de véhicules électriques, c'est l'argument de Carlos Tavares, hein, ça veut dire que les constructeurs pourraient être ruinés par les amendes qui leur seront infligées, qui peuvent aller jusqu'à 1 milliard d'euros.
S'il y a des amendes, ils seront obligés de les payer parce que, à mon avis, ils vont pas arriver à tenir les objectifs du Parlement européen dans des délais aussi courts. C'est pas possible. Hein. Donc, sauf alors à réduire les moteurs, à plus vendre de haut de gamme, etc. Ce que je sais pas, c'est quelle est la réaction des grands constructeurs germaniques, hein, des Allemands, quoi. Donc là, eux qui font que des grosses voitures qui dépassent les 140 grammes de CO2, ça va être encore plus difficile pour eux, quoi.
Alors comment on fait là? On est dans l'injonction contradictoire entre la lutte contre le réchauffement climatique.
À un moment donné, il va falloir que les politiques s'en mêlent et que les chefs d'État, peut-être, ou les ministres de l'environnement et de l'industrie se réunissent, hein, de tous les pays, parce que pour le moment, ceux qui mènent la danse, c'est évidemment les pays constructeurs qui sont plus touchés, hein, Allemagne, Italie, France et encore un petit peu le Royaume-Uni, mais vous me direz, il est plus dans l'Europe ou bientôt plus dans l'Europe. Donc les autres pays, eux, ils regardent un petit peu tout ça, mais en même temps, je suis pas sûr qu'ils soient d'accord avec des normes aussi difficiles à atteindre, parce que ça veut dire que le parc va continuer à polluer. Donc 40%, ça va être que sur les véhicules neufs. Et l'impact sur le CO2 sera de toute façon inférieur à sans doute au souhait des députés européens.
Alors une épée de Damoclès donc financière qui pèserait sur les constructeurs. Carlos Tavares explique aussi qu'on n'a peut-être pas pensé à tout et qu'il faudrait y regarder de plus près avant de passer trop vite à l'électrique. Par exemple sur les batteries, il va y avoir un problème de production et de recyclage.
Il y a un énorme problème de production, parce que si on veut électrifier une grosse partie des voitures neuves vendues chaque année, il va falloir construire des méga usines de batteries. À la production, il y a une émission de carbone, hein, enfin il y a de CO2, il y en a aussi au recyclage, on peut pas recycler tout, il y a encore des aléas de type climatique qui perturbent les performances des batteries au lithium, etc. Enfin, je pense qu'on n'est pas encore mûr pour une production de masse comme celle qu'on connaît sur les véhicules traditionnels, hein. Donc tant qu'on produit 2%, 3% et que c'est des petits véhicules urbains ou des véhicules qui sont utilisés qu'en zone urbaine, bon, pour le moment, il n'y a pas le feu, hein, à la demeure. Mais si on veut, je sais pas, 20% de la production française, c'est-à-dire environ 300 ou 400 000 véhicules an, ça va être très très difficile.
Et puis reste à organiser ce qu'on appelle l'Airbus des batteries, là, une production européenne.
Ils sont tous d'accord pour le faire, mais ça va prendre un certain temps. En tout cas, pas les délais du Parlement européen. Et il y a quelque chose qui est quand même très important aussi, c'est qui c'est qui va les produire. Si c'est des entreprises nouvelles, notamment chinoises et coréennes, ça veut dire qu'il va y avoir des emplois menacés dans la filière traditionnelle. Et comme vous le disiez en introduction, 13 millions de salariés directs chez les fournisseurs et les constructeurs, mais il y a toute la chaîne qui va être perturbée, donc les garagistes, etc., parce qu'ils n'ont pas l'habitude de réparer les voitures électriques non plus.
Voilà, ce qui va demander donc une volonté politique unitaire. Oui. Merci Jean-Jacques Chanaron, économiste, spécialiste de l'industrie automobile. Merci.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decaen.
Certains diront qu'il était déjà en campagne, mais cette fois c'est officiel. À 3 mois des européennes, le 26 mai, Emmanuel Macron publiera ce soir dans plusieurs journaux européens et dans la PQR, la presse quotidienne régionale, une tribune sur l'Union, sa vision de l'Union, ses propositions de réforme sur quelques thèmes forts, la défense, l'immigration, l'environnement. Le président de la République qui a au préalable fait un geste en direction de l'Italie pour tenter d'apaiser les tensions apparues ces dernières semaines. Dans une interview à la Rai Uno, il insiste sur la nécessité d'une réconciliation en balayant ce qu'il appelle les péripéties de ces derniers jours, sans jamais citer ni Luigi Di Maio, ni Matteo Salvini, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il annonce avoir invité le président italien Sergio Mattarella le 2 mai prochain à Amboise pour les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Le geste sera-t-il jugé suffisant? Rien de moins sûr, Mathilde Imberti, même s'il a été apprécié.
L'opération sympathie menée par Emmanuel Macron est appréciée par la presse italienne de manière générale. général. Il fait la paix avec l'Italie, note le quotidien de droite Il Giornale. Le ton est conciliant, souligne La Repubblica, proche du centre-gauche. Il Sole 24 Ore, le quotidien économique, salue la volonté de dialogue, en particulier sur la ligne grande vitesse Lyon-Turin. Le président français est favorable au projet, mais met en garde, on risque de faire des erreurs en allant trop vite, souligne-t-il. France-Italie, la brouille est-elle derrière nous après cette intervention télévisée? Pas certain, répond La Repubblica, car Emmanuel Macron renvoie dos à dos les progressistes et les nationalistes, préparant le terrain pour la campagne des européennes. Reste Libéraux, le quotidien de droite populiste, pour railler le petit coq Macron qui s'offre, écrit Libéraux, un monologue, une publicité géante pour l'Europe. Il est vrai, et une partie des commentateurs italiens le souligne, que le président français a échappé aux questions les plus épineuses, le sort des migrants à la frontière franco-italienne ou encore l'avenir des anciens terroristes italiens résidant en France depuis des décennies et réclamés désormais par Rome. L'interview d'Emmanuel Macron a, quoi qu'il en soit, intéressé les Italiens. Ils étaient 3,5 millions à la suivre hier soir. Rai Uno arrive en tête des audiences télé. À Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Et parmi les sujets qui fâchent entre Paris et Rome, il y a le cas des anciens activistes italiens d'extrême gauche qui ont rompu avec leur passé et qui se sont réfugiés en France. Des juristes français, dans une tribune publiée par Le Monde, appellent la France à ne pas les extrader, parmi les signataires notamment Michel Toubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Après le grand débat, un autre grand débat pour la bonne cause, celui-là aussi, un débat sur les déchets radioactifs dont on connaît maintenant la date, ce sera le 17 avril et jusqu'à la fin septembre. Pour la première fois, on nous demandera notre avis sur ce qu'il faut faire des déchets radioactifs. Comment les stocker? Faut-il enfouir les plus dangereux comme il est prévu de le faire à Bure dans la Meuse? Et parmi les questions posées également, celles qui concernent des déchets très faiblement radioactifs, dont on parle moins, mais qui sont de loin les plus importants en volume, Sandy Dauphin.
Des gravats, de la ferraille, de la terre et même des vêtements de protection utilisés dans les centrales, on les appelle les TFA, les déchets de très faible activité. La France en stocke environ 500 000 m3 dans l'Aube. Le centre de stockage est presque plein. Faut-il l'agrandir ou bien recycler certains déchets dans le BTP par exemple? Pour la première fois, les Français pourront donner leur avis. Isabelle Harel Dutiroux, présidente de la commission en charge du débat public sur la gestion des déchets nucléaires.
Le volume va sensiblement s'accroître avec les opérations de démantèlement. Il faudra réfléchir s'il convient de les conserver comme ils le sont actuellement ou de prévoir des optimisations de leur gestion.
Le stockage des déchets très faiblement contaminés est une particularité française. Leur recyclage est aujourd'hui strictement interdit, principe défendu jusqu'à présent par l'autorité de sûreté nucléaire, Lydie Évrard, commissaire à l'ASN.
C'est essentiellement s'assurer que ces déchets ne se retrouvent pas dans des biens de consommation grand public, y compris pour des populations sensibles. Je pense qu'à partir du moment où on ne trace plus les filières de recyclage, on peut avoir ce risque.
En 2008, l'autorité de sûreté nucléaire avait fait retirer les boutons de 600 ascenseurs. Des traces radioactives avaient été décelées sur ces pièces issues du recyclage en provenance de l'Inde.
Le débat national sur les déchets nucléaires, ce sera donc à partir du 17 avril, une trentaine de réunions publiques au programme et un site internet qui lui sera dédié. Les auto-écoles dans la rue, quoi de plus normal, mais là ce n'était pas pour donner un cours. Après Paris, il y a 3 semaines, les auto-écoles manifestent aujourd'hui à Lyon et à Nantes. Des opérations escargot contre la réforme du permis et la concurrence des plateformes en ligne qu'elles jugent déloyales. Christophe Vincent a suivi les cortèges lyonnais.
400 voitures écoles en 2 cortèges sur l'A7 et le périphérique. Des pancartes « Macron touche pas à mon auto-école ». Patrice Besson préside le CNPA, le syndicat des professions de l'automobile. Il cible la plateforme lyonnaise Permis Libre.
Il y a des personnes qui sont sanctionnées et qui disent non, non, je continue. On ne voit pas pourquoi une profession doit respecter le code de la route et pourquoi il y a une frange qui s'appelle les écoles en ligne et qui peuvent passer entre les obligations réglementaires. Ce n'est pas possible. Il ne peut plus y avoir de syndrome Benalla en France.
Ubérisation, travail dissimulé, les auto-écoles n'ont pas de mots assez durs contre les plateformes en ligne. Julie Petiard défend son métier.
On accuse les tarifs, on accuse tout ça, mais on reste quand même des entreprises. Une entreprise, ça a des charges, ça a des voitures, des assurances, du carburant, des gens qui savent travailler. Il faut savoir rémunérer tout ça, donc forcément, il faut bien que l'argent vienne de quelque part. C'est un permis, normalement, on l'a pour la vie. À l'heure actuelle, ça dérange personne de mettre 1500, 1600 euros dans un téléphone portable qui va durer 2 ans. Et nous, en fait, on demande ça, mais pour un permis qui va durer pour la vie.
les deux cortèges doivent se rejoindre à la préfecture. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Dans 4 jours, la journée des droits des femmes, le 8 mars, l'occasion de parler des femmes qui, elles, n'ont pas toujours eu l'occasion de parler. C'est en train de changer ces dernières années, mais jusqu'aux années 2010, voir cette enquête publiée par l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, enquête inédite et parlante, c'est le cas de le dire. 700 000 heures de programmes ont été décortiquées de 2001 à 2010 et résultat, 32% de voix féminines à la télévision, 31% sur les radios, Stéphane Capron.
C'est le plus gros volume de données jamais analysées dans le monde grâce à un logiciel qui détecte et différencie les voix des femmes et des hommes, et les machines font le constat que la parité n'y est pas. Il n'y a qu'un seul média bon élève, Chérie FM, avec 51% de temps de parole, mais on aura même tendance à dire qu'on s'attendait peut-être un petit peu plus, car la cible de cette radio, c'est une cible féminine. À la télévision, France 24 est sur la première marche du podium avec 44% de son temps de parole pour les femmes. M6 est la première chaîne généraliste avec 41%. Et les temps de parole des femmes sont encore plus faibles aux heures de forte audience. Le soir à la télé, le matin à la radio, ils baissent en moyenne de 3,2%. Un lourd constat pour Aude Loriot, porte-parole de Prenons la Une, association de femmes journalistes.
Les heures de grande écoute sont les heures les plus stratégiques pour les radios, les télévisions. Et c'est là aussi où la question du pouvoir est la plus forte. Et donc le sexisme est encore plus fort, c'est-à-dire la bataille pour les places, la cooptation entre hommes, il sévit de manière plus forte. Nous, on avait analysé dans l'étude des matinales radio qu'on avait faites que sur les 6 premières matinales radio de France, il n'y a aucune femme qui était toute seule à la tête d'une matinale radio.
Quant à votre radio, France Inter, eh bien sachez qu'elle n'est pas non plus un bon élève.
Ah
le
bon
temps de parole réservé aux femmes n'est que de 32%, c'est 28% chez nos confrères de France Info.
France Inter, dont la directrice de l'information
est une femme.
En rappelant que la PDG de Radio France est aussi.
Et notre directrice
une
aussi.
Une femme, voilà. Et notre directrice aussi, bien sûr. Bonjour Laurence Bloch. À propos de l'égalité homme-femme, depuis vendredi, les 1500 entreprises françaises de plus de 1000 salariés doivent publier leur index de l'égalité, notamment sur les écarts de rémunération. Eh bien, beaucoup ne l'ont pas encore fait. Et d'autres tentent de cacher un mauvais chiffre sur une page égarée de leur site web. Alors, pour faire un bilan précis et dresser le catalogue des bons et des mauvais élèves, eh bien, toute contribution sera la bienvenue. Aidez-nous à réaliser ce catalogue en vous rendant sur franceinter.fr. Allez, c'est mon actu dans l'entretien du lundi proposé par Sandrine Houdin ce 4 mars. L'actu d'une femme, Maïlys, 67 ans, bénévole au Resto du Cœur depuis 15 ans. Elle va passer 2 jours, vendredi et samedi, dans un supermarché pour essayer d'attraper nos regards et faire appel à notre générosité pour la plus grande collecte nationale des Restos du Cœur. Collecte annuelle, ils sont comme elle 77 000 bénévoles à tenter d'améliorer encore le résultat de l'année dernière. Près de 7 900 tonnes de nourriture récoltée, ce qui représente près de 8 millions de repas. C'est beaucoup, mais pas suffisant pour Maïlys, qui, malgré la maladie qui la ronge et l'affaiblit, n'entend pas baisser les bras.
Vous savez ce qui me donne l'envie de continuer ? C'est quand la personne accueillie vous fait un sourire. Quand vous voyez ses yeux qui pétillent. Et puis, quand on arrive à sortir quelqu'un de sa situation, c'est extraordinaire. Ça me permet de me lever le matin. Me dire, allez Maïlys, t'es fatiguée, mais vas-y. C'est ça. J'ai vu la mort de près 2 fois. Et chaque fois, je m'en suis sortie. Parce que quelque part par là, je pense que d'aider les personnes, d'essayer de les sortir. En définitive, je m'aide moi-même à me sortir.
Ça veut dire que les Restos du Cœur vous ont aidé à vous battre contre la maladie?
Bien sûr. Je suis là en train de vous parler aujourd'hui. Je suis vivante. Je vais peut-être vous faire sourire, c'est comme mes enfants. Ici, nous sommes un petit centre et nous sommes une famille. Et c'est comme si c'était mes enfants.
Vous n'êtes pas tout de même découragé par toute cette pauvreté là?
C'est très dur, parce qu'il y a des cas vraiment, je les admire. J'admire parce que je me dis, moi si j'avais été dans cette situation, est-ce que j'aurais eu cette force?
C'est de pire en pire?
Oui, c'est de pire en pire. Surtout des petits retraités, surtout des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui gagnent 600, 700 euros. Ça fait très mal. Des personnes aussi qui ont tout perdu, tout. Avant, les personnes venaient pour chercher un colis. Ça s'arrêtait là. Maintenant, quand ils arrivent au Resto du Cœur, c'est leur survie. Et on n'avait pas ça il y a 4-5 ans.
Alors, le 8 et le 9, que dire si vous aviez un message?
Je dis toujours, on ne sait jamais de quoi est fait le lendemain. Peut-être on serait content d'avoir un paquet de pâtes dans son placard. Ça va très très vite. Ça va très vite. On peut se retrouver sans rien très vite.
Oui, Maïlys, responsable des Restos du Cœur au Pré Saint-Gervais en Seine-Saint-Denis, au micro de Sandrine Houdin. La collecte nationale, ce sera donc vendredi et samedi. La mort du chanteur britannique Kay Flint, leader du groupe d'électro The Prodigy. Son corps a été retrouvé ce matin par la police de l'Essex, dans le sud-est de l'Angleterre. Il avait 49 ans. Ce décès n'est pas considéré comme suspect, précise la police. Voilà, le chanteur britannique Keith Flint, il avait 49 ans. Dans un instant, les intempéries en France et aux États-Unis. D'abord, cette histoire de Clochemerle à Colmar, où une quinzaine de riverains de la collégiale n'en peuvent plus des cloches qui sonnent beaucoup trop fort. Tous les dimanches matins à 10h15, trop fort et trop longtemps, une bonne dizaine de minutes. Des riverains qui ont donc décidé d'attaquer en justice les autorités ecclésiastiques. Une initiative qui ne fait pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ça fait partie du patrimoine, les cloches. Alors là, je suis en colère après ceux qui rouspètent à travers avec les cloches.
Les cloches, elles doivent continuer à sonner. Voilà. Et très fort. Ils n'ont qu'à déménager. S'ils sont pas contents, ils n'ont qu'à partir.
Il y a ce matin un article, une dame qui écrit qu'elle habitait 30 ans ici, mais ça ne l'a pas dérangée.
Celui qui peut faire la grasse matinée déjà jusqu'à 10h15, eh ben c'est bon. Elle a qu'à se lever à 10h15.
Ça nous appartient. Hein. C'est nous. Il faut que les cloches sonnent.
Voilà, les cloches sont faites pour sonner. 33 départements dont Paris, toujours en vigilance orange au vent violent. On y vient tout de suite. D'abord aux États-Unis, c'est une vraie tornade qui est passée sur l'Alabama où 23 morts ont été recensés. Et ce n'est peut-être pas fini. Des centaines d'habitations sont par terre, Grégory Phillips.
Oh my God, dude.
L'énorme tornade a été filmée par cet habitant du comté de Lee dans l'est de l'Alabama. L'homme est au volant de sa voiture, les vents tourbillonnants sont à quelques centaines de mètres seulement. Sur une bande d'environ 400 mètres, la tornade a tout emporté. Selon les services météo américains, le phénomène était accompagné de vents allant jusqu'à 266 km/h. Je ne me souviens pas d'une telle situation depuis au moins 50 ans, dit le shérif du comté Jed Jones sur CBS. On s'attend à énormément de victimes. On va faire tout notre possible pour aider ces familles qui ont perdu des proches ou qui n'ont plus de maison aujourd'hui. Une habitante décrit, elle, la violence du phénomène météo. J'ai attrapé mon chien, je me suis enfermé dans le placard, assise par terre, et j'essayais de tenir la porte pour la garder fermée. Là, dans le noir, j'entendais le vent, la maison bouger. Sur les chaînes de télé, enfin, on voit les images de ces maisons ou de ces ranchs qui ont littéralement explosé sous la force des vents. L'Alabama n'avait pas connu telle catastrophe depuis 2011, quand des tornades du même type avaient tué 200 habitants de la ville de Tuscaloosa. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
En France, rien de comparable. 7000 foyers sont privés d'électricité dans les pays de la Loire, mais pas de bobos pour l'instant. 33 départements sont toujours en vigilance orange au vent violent, Elodie Calac.
Oui, entre la Manche, le Nord-Est, le Massif Central, Rhône-Alpes, c'est vraiment agité, averse, orage, grésil, très forte rafale de vent sur les départements en vigilance orange, entre le centre, le bassin parisien et le Nord-Est, jusqu'à 100 km à l'heure, parfois 110, 120. Ça va se calmer progressivement dans l'après-midi et ce soir.
Elodie Calac, merci.